France Inter, franceinter.com.
Mais tout d'abord, le plus important, j'espère que vous allez bien. Donc bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement avec aujourd'hui à la technique Sophie Moreno et Yann Bouillot pour nous accompagner et assisté de Jean-Christophe Pinaza, de Jean-Baptiste Audibert, c'est Anne Wenfeld qui réalise cette émission. Et une petite humeur dans cette émission qui empêche de polluer et de réchauffer en rond. Bonne nouvelle, figurez-vous, parce qu'après 10 jours de régime volontaire sans écran, nos écoliers de Strasbourg sont encore vivants. Oui, passer 100 jours sous terre sans voir le jour, 3 mois dans un sous-marin, mais c'est de la rigolade à côté de cette épreuve. Incroyable mais vrai, il existe d'autres activités pour les pré-ados que les jeux vidéo ou les séances de pub à la télé. Alors à ce sujet, rassurez-vous, pas de souci à se faire pour les publicitaires privés des chaînes de services publics. Figurez-vous qu'on vient d'inventer une méthode pour écrire des messages en forme de nuages dans le ciel, visibles à des kilomètres à la ronde, c'est ce que m'a appris un numéro de Télérama. Un entrepreneur américain dit avoir trouvé le moyen d'écrire des messages dans le ciel à l'aide d'une mousse pouvant flotter à 6000 mètres d'altitude. L'humanité progresse donc à grands pas. Résultat garanti du plus bel effet fait dans les contrées où les cieux restent tristement bleus toute l'année. Très pratique aussi pour les cyclistes et les randonneurs à pied qui auraient tendance à négliger leur portable avec écran télé. Alors fini les rêveries solitaires, hein, bien sûr, Baudelaire, nuages, mon beau nuage, les nuages aux formes imaginaires. On y voyait des géants, vous savez, des profils d'oiseaux, des éléphants, des dromadaires et un raton laveur, pourquoi pas. Et bien ce seront bientôt des 4 roues et prix de liberté qu'on verra gambader dans les airs avec la bénédiction du bureau de vérification de la publicité, organisme connu pour sa grande sévérité. Alors vous me direz, il était temps de mettre un terme au gâchis. Parce que quand même, rendez-vous compte, tous ces grands espaces inexploités au-dessus de nos têtes, à la ville, à la mer, à la campagne. Hein ? Bref, après le temps de cerveau disponible, l'espace de vision disponible est en route. Et on n'est pas très loin de réaliser l'un des plus vieux rêves de l'humanité, planter des panneaux lumineux sur la Lune, visibles partout sur la Terre. Ah, c'est beau, une publicité la nuit, oui. Autre proposition pour nos amis annonceurs en manque d'espace publicitaire, si on parrainait les rivières, les mers, les montagnes, hein ? Si on leur donnait des petits noms à ces merveilles de la nature qui sont trop souvent délaissées par les professionnels du marketing et de la com. Tenez, ce week-end, j'ai fait la descente des gorges du Décathlon et puis j'ai enchaîné avec l'ascension du Mont Adidas. Ah ouais, bah moi j'ai assisté à une course automobile sur le tout nouveau circuit qui va bien pourrir le parc naturel régional Michelin dans le Périgord Limousin. Vous voyez, on peut y aller comme ça. Alors, quand même, une autre bonne nouvelle, en France, d'après l'INSEE, on n'a pas de pétrole, mais on a des bébés. Avec 1,9 enfants par femme, eh bien, les Françaises restent championnes d'Europe de la natalité. Parité inscrite dans la Constitution ou non, les mamans des générations futures, faut dire qu'elles assurent drôlement bien. Alors dites-nous, mère publicité, tous ces nouveau-nés, pour qu'ils partent du bon pied, on ne pourrait pas leur coller d'entrée sur le front un petit logo publicitaire, hein, là où on perd de la place inutilement, hein ? Alors, avant de toucher le fond de cette société merveilleusement et quelque peu décadente, nous allons donc effectivement nous offrir d'abord une page de réflexion avec Jean-Marie Pelt dans quelques instants. D'après l'excellent livre d'Hervé Kempf, « Comment les riches détruisent la planète », nous allons vous parler d'un économiste américain qui s'appelle Veblen. Et puis, on va respirer, c'est un magazine, on tourne donc une page, et là on va aller au grand air.
Je dis que c'est le vent qui rend fou. Bon, je trouve que c'est bien de pouvoir venir. Quelque part, il y a une fierté, moi, j'ai envie, quand les gens viennent, de pouvoir comme ça leur présenter ce vent, parce que c'est quand même une particularité du coin, alors qu'il y a ses inconvénients quand on est agriculteur, parce que ça crée des dégâts, mais aussi qui, des fois, eh bien, tempère, nous amène un climat plus agréable, avec le soleil comme aujourd'hui.
Voilà, donc vent d'autant, entre autres menus, département du Tarn et Montagne Noire, un lieu tout à fait joli, un lieu assez sensible, pas parfait, hein, loin de là, c'est pas ça, mais qui va, j'espère, vous donner envie et vous apporter une bouffée, on va dire, différente. Et puis Pascal Canfin nous a rejoint. Bonjour Pascal.
Bonjour.
L'état du développement durable en France, ça c'est le dernier ouvrage qui vient de sortir, donc hors série chez Alternative Économique. Quel est un petit peu l'état d'esprit? On fait le point en décortiquant un petit peu ce qui se fait, ce qui se fait pas ou...
Voilà, on voulait savoir derrière les grands discours qu'on entend tous les jours à la radio, à la télé, de la part des politiques ou de la part des entreprises, où la France en est vraiment en matière de développement durable, donc en matière de lutte contre le changement climatique, de préservation de la biodiversité, de qualité de l'air, etc. Donc on voulait répondre à un maximum de questions. On a fouillé dans une cinquantaine de sources françaises, internationales, européennes, et puis on a essayé de livrer cet état des lieux le plus objectif, le plus détaillé possible, pour nourrir un sujet qui est de plus en plus important pour la démocratie, et notamment parce que le projet de loi qui va essayer de transposer les propositions du Grenelle arrive bientôt à l'Assemblée nationale. Donc je pense que c'est bien que ce hors-série sorte maintenant pour dire ben voilà, où on en est concrètement. Quelle est la part des cancers qui sont liés à l'environnement? Est-ce que la qualité de l'air s'améliore ou pas? Est-ce que la France va respecter ses engagements en matière de lutte contre le changement climatique ou pas? Voilà, on répond à toutes ces questions et à bien d'autres.
Et c'est drôlement bien documenté, c'est drôlement bien fait. Donc on vous retrouve d'ici une petite demi-heure. Vous êtes avec nous tranquillement. Hein. Et bah, d'ici là, et ben voilà, on va s'offrir le premier disque choisi par Karl Wasser, qui est très très bien. Vanessa De Mata et Ben Harper.
É só isso, não tem mais jeito. Acabou, boa sorte, não tenho o que dizer, são só palavras, e o que eu sinto não mudará, tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz, tudo que quer de mim. Nothing left to say, it's only words, and what I feel won't change. Tudo que quer me dar, everything you want é to give me, é too pesado, much, it's não heavy, paz, tudo que there's no peace, all reais, you want from me isn't real expectations.
Falling, 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 falling
Il est temps de retrouver Jean-Marie Pelt. Jean-Marie, bonjour.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Il y a un ouvrage que l'on a vraiment bien aimé, qui ne fait pas dans le détail et qui est très très bien, qui est signé Hervé Kempf et qui s'appelle « Comment les riches détruisent la planète ». Alors c'est aux éditions du Seuil et il y a beaucoup d'idées. Bon, c'est vrai qu'on sait que nous sommes les uns les autres à un moment de l'histoire avec donc ce défi qui est nouveau à l'espèce humaine, c'est-à-dire que nous sommes extrêmement dynamiques et puis on se heurte aux limites de la biosphère. Bien. Mais derrière tout ça, il y a quand même toute une classe qui est là, dirigeante, et vous avez envie plutôt de parler de richesse et de pauvreté à travers un article, je veux dire, de cet ouvrage.
Oui, on parle énormément de développement durable. On ne sait pas que dans la charte des Nations Unies pour le développement durable, à l'article 3, il est dit que les ressources de la planète doivent être équitablement réparties entre tous ses habitants. Bon, ben c'est raté.
C'est un petit peu raté,
oui. Oui, c'est même complètement raté.
C'est-à-dire qu'en gros, il y a 20% de la population qui s'accapare 80% de la richesse.
C'est ça, c'est tout à fait ça. Alors, il y a des chiffres, c'est raté partout.
Oui, oui, bien sûr.
Aux USA, ben, il y a cette chose étonnante que le revenu moyen de 1% de la population la plus riche était 133 fois supérieur au revenu moyen des 20% les plus pauvres en 79, et c'est passé à 189 en l'an 2000.
Toujours plus.
Donc, toujours plus.
Oui, oui.
Toujours plus d'inégalités.
Oui,
c'était que la fourchette des revenus s'élargit toujours plus. En France, nous avons 7 millions de pauvres, oui. C'est le chiffre connu. Dans le tiers-monde, il y a un peu moins de pauvres en Chine et en Inde, mais c'est la planète tout entière qui s'appauvrit. Quand un Chinois s'enrichit un tout petit peu, la planète en prend un coup terrible en pollution, en déboisement, en utilisation des ressources, etc. Et puis alors pour le reste, alors l'Afrique, tout ça, c'est on patauge.
Ça, c'est-à-dire, je pense qu'on aura évidemment des comptes à rendre, en tout cas, lorsque les historiens verront cela, je ne sais pas, dans un siècle ou
oui.
Même avant.
Qu'est-ce qu'ils ont fait ?
Qu'est-ce qu'ils ont fait ?
Qu'est-ce qu'ils ont fait ?
Alors qu'il y a les moyens, qu'il y a les molécules, il y a tout ce que l'on veut.
Enfin, donc... Alors j'ai bien aimé, dans ce livre, ça m'a beaucoup intéressé, l'apparition d'un économiste américain né en 1857, qui s'appelle Veblen, et qui déjà à cette époque-là soutenait cette thèse qui peut paraître stupéfiante et qui ferait mourir sur sa chaise un écologiste, un économiste bon teint. Hein, il dit ceci, c'est pas tant qu'on produit pas assez de biens, c'est qu'on les distribue très mal.
Oui.
Et c'est exactement ce qui se passe. Parce que quand vous écoutez les économistes, ils disent qu'il faut créer des richesses.
Oui.
On entend ça tout le temps. Saisir des opportunités. Vous avez comme un prédateur qui se précipite tout d'un coup sur une opportunité pour pouvoir créer des richesses. Et pour que ça marche, il faut faire des réformes extrêmement importantes. Et de la mobilité. Et de la flexibilité. Hein. Et ça donne de la croissance.
Oui.
Et puis c'est fini, puis vous ouvrez le journal, et c'est tous les jours, ça, qu'on entend, que tout le monde entend toute la journée.
C'est presque une religion. Quoi.
C'est une religion, c'est la religion de la croissance. Alors lui, il dit pas ça du tout, il dit que le drame, c'est la tendance qu'ont les êtres humains à vouloir rivaliser avec les autres, à faire du mimétisme.
Oui.
Il y avait cette belle histoire du rhinocéros d'Ionesco. Tout d'un coup, dans une petite ville, il y a un individu qui devient un rhinocéros. Alors c'est l'épouvante, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, 3 jours après, l'épouvante se multiplie par 10, parce qu'il y en a un second qui devient... Et puis il y en a plein qui deviennent des rhinocéros. Et il y en a un qui reste tout seul, et qui dit « je résiste », et il ne devient pas rhinocéros. Et c'est exactement ce qui se passe. Les gens se copient. On veut avoir la voiture plus belle que celle de son voisin, on veut tout de suite avoir ce que le voisin a, et on voudrait avoir ce que la classe sociale qui est juste au-dessus, pas la Jet Society, parce que là c'est trop loin, ça c'est pour la télé, c'est pour les émissions de Berne qu'on regarde bouche bée d'ailleurs, entre parenthèses, mais on voudrait avoir juste ce qu'a la classe au-dessus. Et le monde entier s'épuise à ce jeu. On s'épuise à ce jeu.
C'est d'ailleurs une réussite du marketing et de la publicité, puisque ce sont des créateurs à la fois de désir et de frustration.
Et ça marche admirablement bien.
Ah oui.
Et Welbel en question disait, cet instinct-là d'imitation, on pourrait dire de mimétisme en quelque sorte, est aussi fort que l'instinct de conservation. Oui. Eh bien, je suis d'accord. Mm-hmm. Et je suis d'autant plus d'accord que je ne suis pas frappé par la contagion des désirs des autres, que moi, je n'ai pratiquement pas de désir du tout, mais que je regarde ce spectacle ahuri, parce qu'en effet, c'est dans ça que l'on patauge et dans ça que l'on vit. Alors, toute l'astuce, c'est d'inventer sans cesse de nouveaux engins, de nouvelles technologies, et puis brancher par le marketing les consommateurs là-dessus, et du coup, bien, les consommateurs se ruent. Alors, s'il y a un écran plat, et tout de suite tout le monde a des écrans plats, si c'est une caméra numérique, il n'y a plus un chat sur toute la planète qui n'a pas une caméra numérique. Maintenant, il y a le téléphone télé. Il y a, paraît-il, des téléphones portables si perfectionnés qu'il n'y a plus le téléphone dessus.
Ah oui.
Il y a tout sauf le téléphone.
Sauf le téléphone,
oui,
bien sûr. C'est ça. Oui, c'est un progrès.
Oui. Oui, il y a des cafetières extraordinaires. Je me suis fait piéger par une cafetière parce que quelqu'un de ma famille voulait offrir une cafetière à sa mère. Et sa mère lui avait dit, tu sais, tu m'achètes une cafetière comme ça. Oui. Alors nous avons été dans le magasin, acheté la cafetière comme ça. J'étais absolument effaré.
Vous avez appuyé sur le bouton, vous avez entendu votre voix parce qu'elle était branchée sur France Inter, c'est ça,
oui. En gros. Et alors, j'ai dit à la dame, c'est cette cafetière-là que les gens prennent. Ah, elle m'a répondu, monsieur, tout le monde les prend. Bon, allez, hop là, on a acheté la cafetière. Et puis alors, il faut faire des voyages à New York, ça c'est très important. Aller à Marrakech, c'est très très important. Voir une exposition de peinture à Saint-Pétersbourg, acheter un 4x4, il serait tout à fait illogique.
Mais avec publicité écologique.
Avec une publicité écologique sur leur 4x4, oui. Alors, de temps en temps, ça marche, le mimétisme. On en parlera tout à l'heure. Pour les vélos, ça a marché. Mm-hmm. Voilà, les gens font du vélo. Alors, à partir de là, nous sommes entrés dans une société qui use jusqu'à la corde les ressources de la Terre. Voilà, nous usons les ressources de la Terre jusqu'à la corde. Et notre sympathique Tocqueville, dont...
Oui, qui n'était pas un anarchiste, hein, quand même.
Qui était un homme plein de sagesse et de prudence au siècle dernier, avait vu le mécanisme et l'avait décrit.
Alors, il écrivait « Je veux imaginer sous quel trait nouveau le despotisme pourrait se produire dans le monde. Je vois une foule innombrable d'hommes, semblables et égaux, qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme. Chacun d'eux retiré à l'écart et comme étranger à la destinée de tous les autres. Quant au demeurant de ses concitoyens, il est à côté d'eux, mais il ne les voit pas. »
Au-dessus de cela s'élève un pouvoir immense et tutélaire qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Ce pouvoir est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer des hommes à l'âge viril. Mais il ne cherche au contraire qu'à les fixer irrévocablement dans l'enfance. Il aime que les citoyens se réjouissent pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouir.
Ben voilà, il était assez visionnaire, Tocqueville.
Oui, c'est ce qui se passe.
Oui, c'est ça.
Je suis étonné, je crois que c'est vraiment ce qui se passe. Il a vu ça il y a 150 ans et le pouvoir prodigieux, en fait, qu'a la publicité et qu'a l'aptitude de chacun à copier son voisin. Et le moteur le plus puissant de l'économie.
Oui, parce que
c'est comme ça que
marche. On se fait tout savoir les uns les autres aussi. Enfin, c'est clair, même inconsciemment.
C'est comme ça que marche l'économie. Ouais. Et l'économie a inventé quelque chose de génial qui est la technologie. On peut changer de technologie tout le temps. Donc ça ramène beaucoup, 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 beaucoup d'argent. La science travaille pour l'économie. Les scientifiques, on leur dit tous les jours qu'il faut qu'ils travaillent pour les entreprises. Donc c'est une machine qui, ça tourne. Ouais. Tout va donc très bien. Grâce au progrès. Et quand on me dit, j'aimerais, comment tu vas ? Une question stupide, grâce au progrès, je vais de mieux en mieux.
Oui, c'est ça. Bon, le seul petit hiatus là maintenant, c'est ce que l'on disait au départ, c'est qu'on est dans un monde qui est fini, et que ça a été très très révélateur de dire au moment des Trente Glorieuses, où d'un côté on pouvait épuiser, on va dire, la planète et ses matières premières, et puis cette même Terre pouvait servir aussi de vide ordure, quoi, de grands déchets permanents.
Oui, et c'est forcément ce qui se produit. C'est ce qui se produit, c'est que quand vous achetez un engin, vous achetez dans cet engin, caméra, tout ce que vous voulez, des métaux qui sont assez rares. Mais dont personne ne se préoccupe du fait que peut-être dans 100 ans, il n'y en aura plus, puisque dans 100 ans, on ne sera plus là pour les vendre. Et que nos enfants, dans 100 ans, bon, c'est après nous le déluge.
Bon, on espère que quand même ça évolue. Parce
oui, on fait ce qu'on peut.
Merci beaucoup Jean-Marie. Alors, on va rappeler donc le titre de cet ouvrage d'Hervé Kempf, Comment les riches détruisent la planète, c'est aux éditions du Seuil. Et puis ben Jean-Marie, on vous retrouve semaine prochaine à ce même micro. Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
Je marche. Je marche. Je marche. Je marche sur un fil. Je marche. Des images défilent. Défilent. D'automobiles. Des boulevards. Défilent sans mobile. Des boules sans me voir. Des boules de lumière. Jaillissent. Jacassent. Une ombre, une fenêtre. Une ombre qui se plisse, une ombre qui s'efface. Je passe des ruelles, des impasses. Des faces, des souvenirs s'effacent au coin d'une avenue. Des boules d'avenir, des boules de lumière. Dans des boui-boui lunaires. Les halos des néons, allô, allô. Un appel tombe à l'eau. Sirène, police. Sirène à la police, je marche dans un rêve, je marche sur la grève d'une marée humaine. La foule sans visage, la foule se propage, défile, 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 la foule qui défile. Se faufile des hommes, des femmes, se gorment, se fanent, des hommes, des femmes, aux visages de brume, aux épaules d'hiver, aux manteaux de bitume, aux cœurs de courant d'air, aux yeux de lèche vitrine, aux yeux buveurs, aux bouches qui se taisent. Se toisent et se recroisent aux bouches d'égout, aux bouches d'incendie. Je marche, je marche, je marche, je marche. D'une bouche de métro à la bouche d'une femme. Dans le ciel, file une étoile, file la transhumance humaine à la petite semaine.
Très agréable ça, c'était Nicolas Repas que je marche. Eh bien ça tombe bien car nous allons partir. Tenez, fermez les yeux, on y va. Bonjour Patrick Rossignol.
Bonjour Denis.
Alors, on est chez vous dans ce très beau département du Tarn. Et là, on va respirer le soleil déjà. Et on est en train de gravir, oh, pas en entier, mais quand même ce qu'on appelle cette montagne noire. Et on va situer un petit peu les lieux, parce que là, si on se retourne, on a quand même ce qu'on appelle le pays de Cocagne. On a le Lauragais, c'est ça, là côté, on est plus sur le côté sud, là.
Non, non, là, on est sur le versant ouest, là.
C'est... Ah oui, entre les deux, pardon.
Mais on a le côté sud derrière, là, c'est le charme de cette région, c'est qu'on est... On a des pleins de contrastes, d'oppositions, parce qu'avec des versants, avec des influences... océanique d'un côté, méditerranéenne, même au niveau climatique, un peu le nord, donc avec une variété là. Là, on le voit là, hein, quand on va monter, on va passer dans les différentes zones où on va avoir des végétations, la végétation tout à fait différente suivant où est-ce qu'on passe.
Alors qu'ils vont être mêlés, parce que si on était vraiment complètement côté nord, eh ben, on trouverait du chêne, du rouvre, et puis complètement côté sud, ce serait plutôt de la garrigue. Et puis du pin, et là on est un peu entre les deux, quoi.
Voilà, suivant les couches géologiques aussi, les influences climatiques, mais les couches géologiques, c'est-à-dire qu'on va passer sur une variété de couches géologiques. Là on est sur une partie calcaire, donc où on retrouve toute l'influence méditerranéenne, même en étant sur le versant océanique, alors qu'après, quand on va arriver sur les schistes, on va trouver justement les forêts de hêtres ou de résineux, eux, plus adaptés aux conditions océaniques.
Alors ce que vous entendez, en fait, c'est pas la mer, c'est véritablement du vent. Il faut imaginer des têtes de pin comme ça qui sont ivres, qui sont balayées comme ça par ce vent. Alors on l'a compris, on est dans la montagne noire. Où est-ce que c'est la montagne noire? En fait, c'est la dernière ride du massif central. On est à l'extrême sud-ouest et ça s'incline vers le Minervois, donc le Lauragais. Vous pouvez avoir une vue sur les Pyrénées par temps clair. Ça fait à peu près 100 km de long. Et puis c'est vrai que le vent, il est partout. Vous avez donc ce vent marin d'abord qui est chargé d'humidité, donc qui vient de la Méditerranée. Et puis c'est une espèce de frégolie météorologique parce qu'il se transforme. Il devient après un vent sec, un vent d'autan, donc qui est purgé de son humidité. D'où peut-être d'ailleurs le film « Autant on emporte le vent ». Non, on me dit que c'est pas ça, c'est pas grave. Alors, Patrick Rossignol est un garçon que vous allez entendre et qui a deux activités. Il est agriculteur et puis il est aussi accompagnateur nature. Alors, d'un côté, il fait ses céréales dans la plaine et puis il quitte ces communes qui sont très belles, celles de Douong, de Sorez. Pour celles et ceux qui connaissent, vous avez la très belle abbaye d'Ancalca qui n'est pas très loin non plus, avec tous ces moines qui ont défriché la plaine alors que les gens à l'époque étaient en montagne. Hein. Maintenant, c'est tout à fait différent. Donc, reportage naturaliste, découverte d'un lieu, dans un équilibre d'ailleurs qui n'est pas toujours respecté, mais qui mérite franchement le détour, la montagne noire dans ce très beau département du Tarn.
Et là, je peux dire qu'on a démarré volontairement un peu dans la forêt, parce que quand on va arriver plus haut, on n'arrivera peut-être plus à se parler. Déjà, on va s'accrocher un peu, parce que c'est un vent qui est très violent, mais on dit qu'il y a des rafales, il est supérieur au Mistral, alors que la référence souvent c'est le Mistral. Et bon, là, cette montagne noire fait barrage, fait un rideau là, hein, comme un mur, et donc nous, en étant de l'autre côté, ben, on a tous les à-coups et ça arrive par rafale. On dit que c'est le vent qui rend fou.
Oui, c'est le vent des fous, voilà. C'est ça.
Ouais. C'est vrai que c'est bon, je trouve que c'est bien de pouvoir venir quelque part, il y a une fierté. Moi, j'ai envie, quand les gens viennent, de pouvoir comme ça leur présenter ce vent, parce que c'est quand même une particularité du coin. Alors qu'il y a ses inconvénients quand on est agriculteur, parce que ça crée des dégâts, mais aussi qui, des fois, eh bien, tempère, nous amène un climat plus agréable avec le soleil comme aujourd'hui.
Là, on baisse la tête, on est un peu comme les Indiens.
On va sortir de la forêt, arriver sur la crête, et là déjà, on entend déjà la violence du vent, et je pense que là, il va falloir même vraiment baisser la tête.
Oui.
Mais on va arriver sur un promontoire qui va permettre d'avoir la vue sur d'un côté derrière nous, on aura la montagne, et puis devant, toute la plaine.
C'est-à-dire que vous aurez la vue, vous n'aurez plus le son, quoi. Je vous préviens tout de suite.
Plus le son. Par contre, ça sera au-dessus de Dône. Et donc là, on va voir une statue qui représente Saint-Stapin, hein, qui est le patron de Dourne, et donc avec tout le légendaire qui va autour.
Qu'est-ce qu'il a fait, Saint-Stapin? Il s'appelle Stapin?
Alors, Saint-Stapin, oui. Il est né à Dourne, et on dit que ça a été un évêque de Carcassonne qui est revenu ici comme ermite.
D'accord.
Ce qui est intéressant, c'est le côté légendaire, comment l'Église a pu reprendre un mythe local, où on racontait qu'il y avait quatre frères qui étaient des géants et qui se jetaient des meules de moulins de montagne en montagne.
Ah oui.
Et comment ça a été récupéré par l'Église pour en faire des saints religieux, dont Saint-Stapin qui est devenu le patron de Dourne et qui était donc lié à la terre, donc là, au niveau religieux. Après, c'était tout ce qui était lié à la fécondité. Après, en face, on avait Saint-Féréol qui était lié à l'orage. Derrière nous, Saint-Chipoli lié au vent. Et aujourd'hui,
ça va, il est en forme, Saint-Chipoli.
Il se fait comme il faut. Voilà. Et après, Saint-Macaire, lié à l'eau, qui est dans un ballon un peu plus bas.
Thank you. Alors cette montagne noire, elle doit son nom, elle a, bon, sa couleur c'est quoi? C'est parce qu'effectivement c'est beaucoup de forêts qui donnent cette couleur noire ou...
Alors ça c'est curieux,
ça.
Pas du tout, c'est pas du tout ça.
D'accord. J'avais droit à un joker, c'est
voilà.
Fait.
Mais c'est pas une erreur grossière parce que c'est la majorité des gens pensent que c'est à cause de la forêt, mais il peut y avoir un tas d'autres origines. Bon alors ça peut être une source de légende avec la dame noire, donc... Et puis lié au... parce qu'il y a le pic de Nord,
oui.
Donc la montagne de Nord, on dit, et qui est devenue peut-être la montagne noire. Ça peut être aussi, justement, comme aujourd'hui, quand il y a le vent d'Otan qui souffle, et qu'il y a donc le marin qui amène les nuages derrière la montagne, donc ça fait de notre côté une barre noire sur la montagne.
Oui.
Ça peut être les couleurs, les contrastes géologiques entre les zones de calcaire, surtout côté Carcassonne, et les zones de schiste qui sont plus sombres. Enfin, on peut trouver les gens aussi, Jules César qui avait dit qu'il avait vu des gens de type noir. Bon, est-ce que c'était des charbonniers, etc. Donc on peut trouver un tas d'autres raisons, la magie noire, certains qui donnent comme explication. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de curieux à étudier, mais j'ai jamais trouvé une explication sûre de l'origine du mot. En tout cas, la moins probable, c'est justement sûrement la forêt de résineux, en tout cas.
Bon, et ben donc vous rayez ça maintenant de vos mémoires, définitivement. C'est terminé, c'était le contresens absolument parfait. La Capelette et Saint-Stapin. Ouh, la belle église.
Voilà,
oh là là. Perdue dans la montagne. Et qui domine alors là aussi toute la plaine, là elle est tournée vers, on va dire, vers le Sidobre, vers Castres.
Vers Castres.
Et Saint-Stapin est là.
Saint-Stapin à côté, voilà.
Ah oui, bah il fait paratonnerre lui quand même.
Ah oui, ça fait un peu fusée là, mais c'est pas.
Ah oui, dis donc.
Forcément, c'est un peu plus esthétique. Mais...
Et là, la Capelette, direction.
Alors la Capelette, c'est la petite chapelle qu'on voit en face. Ouais. Et là, on est sur un sentier qui nous permettra, en descendant, en passant au-dessus d'une grande carrière de calcaire métamorphique, c'est-à-dire de pierre à concasser, qui est en activité, descendre derrière. Là, il y a des ardoisières, donc des schistes, donc on passe sur une autre couche géologique, et on remonte derrière sur le plateau, donc à la Capelette, cette petite chapelle que l'on voit d'ici, là, sur l'autre promontoire en face. Là, on est, Denis, on va quitter un peu ce sentier.
Oui.
On va faire un petit détour, on va aller voir, là, il y a une source qui est... Voilà. Qui est intéressante à voir.
Ça glougloute.
Voilà, ouais, parce que.
Ah, ouais.
Voilà, là, comme de nombreuses sources.
Bon, c'est la naissance de l'eau, là.
Voilà, et, voilà. C'est pour un peu parler, peut-être, cette montagne noire, c'est quand même un réservoir d'eau, quoi. Hein. Bon, il y en a qui ont su l'utiliser. Et bon, tout le monde connaît le canal du Midi et puis l'œuvre de Paul Riquet. Et bien voilà, c'est comme ça, en se promenant, un peu comme on est en train de faire, là.
D'accord.
Et puis trouver, il essayait de repérer des sources comme celle-là, justement, et qui ont permis d'alimenter la Rigole, qu'on a vue tout à l'heure,
ouais.
Et puis voilà, l'amener et alimenter le canal du Midi. Et là aussi, utiliser la nature, mais avec ce côté économique quand même.
Absolument.
Et respecter, parce qu'il était lui aussi amoureux de sa montagne noire. Et voilà comment la valoriser et rendre, même à la limite, il venait rendre service aux populations, c'est-à-dire aux agriculteurs, puisque après ça a servi à transporter du grain, du vin. Ça, donc, il y avait ce volet économique qui est lié à partir de cette nature et peut-être d'une source comme celle-là qu'il avait déviée pour alimenter le canal.
Alors dans cette montagne noire aussi, Patrick Rossignol, on va parler du ventre de cette montagne, parce qu'en fait, elle regorge de minéraux. Quoi. Là, on ne voit pas, mais vraiment en dessous, si on tape un peu dans le caillou, on va trouver des tas de choses. On va trouver du fer, on va pouvoir trouver du cuivre, on va pouvoir trouver du plomb, de l'argent, et puis de l'or côté au doigt avec Salsigne.
Hein. Ouais. Ah oui, si. C'est vrai que c'est une région géologiquement qui est très ancienne, puscebon, c'est d'origine hercynienne, mais qui est très riche en minerais, en tout genre, et qui a été utilisée. Et voilà, à certaines périodes, donc on a eu des grandes mines, même au Moyen-Âge, là au-dessus de Sorèze, il y a la mine du Calel, qui était vraiment très importante, on peut descendre jusqu'à moins 120 mètres de profondeur. Au Moyen-Âge, ils allaient explorer pour remonter des nodules de fer, extraire du fer. On voit des traces dans toute la grotte, qui fait à peu près 5 km ou 6 km de galerie. Et ça a été exploré pratiquement partout. Donc c'est impressionnant, plus tout le plateau. Oh, quand on se promène, là, on peut voir des trous. Tout ça, ça a été creusé. Ce n'est pas des dolines naturelles.
Puis quand on parle de Salsing, quand même, c'est vrai qu'on a, extrait quand même de ce coin-là 700 000 tonnes de minerais au total depuis 1924, ce qui a donné, je crois, à peu près un peu plus de 70 tonnes d'or, ça a donné 200 tonnes d'argent, 20 000 tonnes de cuivre, et puis aussi de l'arsenic. Ouais. Et là, problème, parce que quand même méga pollution à cause de l'arsenic.
Ça c'est un peu la verrue, et puis comment le traiter, Il y a des entreprises qui essayent de venir là pour le traiter, mais c'est vrai que ça reste un peu...
Pollution des sols quand même bien
ça,
solide.
Oui, beaucoup d'exploitations. Des fois, on n'anticipe pas toujours.
Et non.
Bon, tout à l'heure, on disait que, en tant qu'agriculteur, c'est vrai que des fois, on se pose des questions. En ce moment, il y a des débats
sur les OGM.
Moi, en tant qu'agriculteur, je me pose des questions. Je dis, trouvez-moi un agriculteur qui aura du plaisir à sortir sa cuve à désherber. Si on lui propose de travailler plus proprement, sa passion, il y a quand même une passion dans le métier d'agriculteur. Moi, je le fais. C'est vrai que j'ai du plaisir à le faire. Je vois mon fils qui veut s'installer aussi. Ça fait plaisir de voir la passion qui y met. Donc on n'a pas envie de tout détruire, notre sol, on a envie d'y faire attention, on n'a pas envie aussi honnêtement d'aller empoisonner les autres.
Votre discours est tout à fait intéressant, mais c'est bien parce qu'on était parti sur la montagne noire, peut-être parce qu'on redescend un peu vers la plaine aussi, que là ça vous rappelle votre métier, parce qu'on doit voir vos parcelles qui sont donc un peu...
Elles sont pas loin là, on est juste au-dessus, mais c'est parce que c'est vrai que moi, c'est un endroit où je vis. Et je ne fais pas juste comme ça, même quand on va se promener avec un groupe, je ne vais pas parler juste comme ça du paysage et du décor.
Non.
J'ai envie de parler de l'endroit où je vis, avec, et qu'on puisse avoir un échange et se respecter, justement. Et puis, s'échanger des idées quoi, sur l'évolution à donner à notre société. C'est vrai que moi, j'ai tendance à dire... Ce qui est attirant, que j'ai longtemps ignoré d'ailleurs plus jeune, c'est en y habitant, on n'y fait pas attention des fois. C'est au contact de gens qui venaient que j'ai découvert ma montagne. C'est grâce aux autres que j'ai découvert, seul.
Bon, qu'est-ce qu'on se dit ? Adicias, c'est ça ?
Allez, Adicias. Et une prochaine fois.
Et une prochaine fois. À bientôt, Patrick. Et merci beaucoup.
Merci aussi.
Pas mal, de s'appeler quand même Patrick Rossignol. Alors, on a aussi parlé des oiseaux. Enfin, il me disait, il était un peu conscient parce que quand vous élevez des céréales, vous utilisez quand même un certain nombre de produits. Vous dites, mais les hirondelles maintenant, c'est espèce rare parce que on les voit plus tellement. Évidemment, oui, ça, il n'y a pas de secret. Alors que ce sont quand même d'excellents insectivores. Faut-il donc le rappeler ? Merci à cet homme. J'irai le revoir sûrement un jour et là, on ira sous terre parce que c'est aussi un coin où on peut faire de la spéléo. Et c'est aussi quelqu'un qui connaît bien l'intérêt des chauves-souris. Ah ouais, ça, autre sujet. Merci à lui. Dans quelques instants, avec Alternative Économique et Pascal Canfin, on va faire un état du développement durable en France.
C'est ta voiture de beauf qui consomme 10 litres au 100 en ville, ou c'est moi. Je t'offrirai une auto à pédale pour Noël pour t'amuser et un abonnement à CO2 Mon Amour avec Denis Chissot. The Mississippi Delta was shining like a national guitar. I am following the river down the highway through the cradle of the Civil War. Graceland, Memphis, Tennessee, I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland. My traveling companion is 9 years old, he's the child of my first marriage. I've raised
back to tell me she's gone. As if I didn't know that, as if I didn't know my own bed. As if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead. And she said, losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown apart. Everybody sees the wind blow. I'm going to Graceland, Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland. Am I traveling? Ghosts and empty sockets. I'm looking at ghosts and empties. But I've reason to believe we all will be received in Graceland. There is a girl in New York City who calls herself a human trampoline. Sometimes when I'm falling, flying, tumbling in turmoil, I say, whoa, so this is what she means. She means we're bouncing into Graceland. And I see losing love is like a window in your heart. Well, everybody sees you're blown apart. Everybody feels the wind blow.
J'allais dire toujours en forme, mais évidemment, donc c'était Graceland, c'était Paul Simon sur France Inter, de la bonne musique, vous l'avez très bien compris, c'est Au-deux mon amour. Troisième volet de cette émission avec Pascal Canfin, journaliste et coordinateur de ce dossier, l'état du développement durable en France, avec Alternative Économique, donc partenaire France Inter, c'est Au-deux mon amour aussi, avec ce numéro qui sort, je tiens absolument à le dire aujourd'hui. Et on va voir un petit peu avec vous, Pascal, non pas redéfinir ces mots, parce que pour certains, le développement durable, c'est de la garniture verte, mais on ne change rien au modèle, c'est le sparadrap sur du libéralisme. Ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, on est en train de bouffer le capital de la Terre et qu'on ne peut pas durer comme ça. Et puis pour d'autres, c'est aussi une manière quand même d'envisager un changement de cap que l'on souhaiterait un peu plus rapide, hein, parce qu'il y a des événements au-dessus de nos têtes qui sont bien là. Donc peut-être bonne et mauvaise nouvelle, on peut commencer d'abord par le climat. Les travaux du GIEC, bon, ça on le sait aujourd'hui, on a eu donc un consensus sur les effets quand même assez dramatiques à venir. On sait qu'au-delà du seuil de 2 degrés supplémentaires de température moyenne, si on continue à rajouter donc de l'énergie dans l'atmosphère, la chaleur va rester piégée et les conditions de vie de l'humanité seraient quand même assez menacées. Comment se situe la France par rapport à cela aujourd'hui, Pascal ?
Alors, il y a deux façons de voir les choses. La première, c'est de se dire, est-ce que la France va respecter les engagements pris dans les années 90 dans le cadre du protocole de Kyoto ? Et la réponse est oui. Ça, c'est une bonne nouvelle, puisque la France fait partie des pays européens. Tous les pays européens ne vont pas respecter leurs engagements. L'Espagne, le Portugal, par exemple, ne vont pas le faire. La France va le faire. Alors évidemment, ces engagements étaient moindres que d'autres pays, donc c'est plus facile de les respecter. Mais grosso modo, par rapport en 1990, on émet en totalité 4% de gaz à effet de serre en moins.
D'accord.
Donc ça, c'est une bonne nouvelle.
Alors, il faut dire que le nucléaire, qui ne résout pas le problème du pétrole, il faut le rappeler, ni les transports, a dispensé peut-être de fournir aussi de trop gros efforts.
Tout à fait. Mais ceci dit, avec un nucléaire qui n'a pas beaucoup bougé depuis les années 90, on a quand même fait des efforts par ailleurs qui font qu'au total, on est à 4% de moins. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, si on regarde ce chiffre et qu'on le compare à un autre engagement de la France, qui n'est pas le protocole de Kyoto, mais qui est ce qu'on appelle le facteur 4. Le facteur 4, c'est un engagement international qui a été traduit en France par la loi d'orientation sur l'énergie de 2005 et qui dit que la France s'engage à diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Mmh. Pourquoi ce chiffre n'est pas tombé du ciel? Ce sont les préconisations du GIEC que vous évoquiez tout à l'heure, hein, le groupement d'experts sur le changement climatique, et qui disent, voilà, c'est ça le scénario qui va vraiment permettre de lutter contre les pires effets du réchauffement climatique.
Pour Kyoto maintenir est très en ces fameux 2 degrés.
Tout à fait, exactement. Et donc là, on en est par rapport à cet objectif qui n'est pas l'objectif international, mais qui est l'objectif du GIEC, qui est le véritable objectif politique que l'on devrait atteindre. Et bien là, par contre, on est très en retard, parce que depuis 1990, et si on trace une ligne droite pour arriver à 2050, et bien aujourd'hui, en 2007, enfin les chiffres datent de 2007, on est très au-dessus de là où on devrait être pour progressivement, chaque année, diminuer nos émissions de gaz à effet de serre pour les diviser par 4 en 2050. Donc, bon côté des choses, on respectera Kyoto. Mauvais côté, mauvaise nouvelle, on n'est pas du tout sur la tendance facteur 4.
Parce que ça nécessite quand même d'opérer une véritable rupture dans les politiques publiques, ce qui n'est quand même pas exactement le cas aujourd'hui. Donc, est-ce que le Grenelle changera la donne? Ça veut dire en tout cas qu'il faut qu'il y ait une implication très forte des pouvoirs publics, et non pas, je dirais, parfois une certaine politique de rustine, quoi.
On a certains secteurs où on commence à avoir une inversion de tendance. Et peut-être les plus grandes surprises en faisant ce hors-série, c'est le secteur des transports, où je dirais depuis 2004, on a une vraie inversion de tendance. Quels que soient les indicateurs que l'on prend, eh bien, on a des transports, je dirais, plus vertueux. Les émissions totales de gaz à effet de serre émises par les transports en France ont diminué chaque année depuis 2004. Ce qu'on ne sait pas forcément.
Ah non, c'est pas vrai.
La part de l'automobile dans les grandes agglomérations, la part de marché, je dirais, dans les déplacements de l'automobile, elle diminue également chaque année depuis 2001-2002, c'est-à-dire, on parle des grandes agglomérations, c'est-à-dire depuis que les villes et les communautés urbaines ont commencé à mettre en place des politiques de transport en commun plus importantes autour des tramways, par exemple. Donc, on a des politiques publiques qui commencent à porter leurs fruits, donc ça veut dire qu'elles peuvent être efficaces. Elles sont évidemment pas encore assez ambitieuses, hein, on n'est pas sur une tendance qui irait totalement dans l'objectif de facteur 4, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais il y a quand même une inversion de tendance. Et il faut donc accorder une importance particulière aux politiques publiques. Et là, on est à un moment clé pour la France. Je veux dire, ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on va vivre avant l'été et puis peut-être sans doute à la rentrée, lorsque le débat parlementaire pour traduire les engagements du Grenelle va avoir lieu, c'est une occasion qui ne se représentera pas de sitôt.
Donc, c'est une véritable fenêtre de tir.
C'est une fenêtre de tir. Est-ce que la majorité parlementaire, est-ce que le gouvernement va vraiment mettre en place cette fameuse rupture qui est clairement dans la feuille de route du Grenelle? Quand on prend les engagements, les propositions du Grenelle, on a une vraie rupture. Alors certains jugeront que ce n'est pas encore suffisant, mais par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, c'est quand même très beau, c'est vraiment mieux. Est-ce qu'on va suivre ça ou pas? Voilà, on est vraiment à la croisée des chemins, dos au mur, et c'est maintenant qu'il faut y aller.
Parce que d'un côté, bon, on sait que globalement, là, on peut parler peut-être davantage du moyen de se déplacer lorsqu'on est un particulier, mais dans le coût global d'un bien, le transport représente 7 à 8% du coût de ce bien. Donc c'est vrai que c'est assez faible. Alors on sait aussi ce qu'il y a derrière, les politiques de juste à temps, de flux tendu, de zéro stock, mais avec une fois de plus derrière des prix qui ne sont pas sincères parce qu'ils ne reflètent pas donc les nuisances engendrées donc par tous ces déplacements. On voit quand même à côté de ça qu'il y a les programmes autoroutiers, la symbolique autoroute A65 qui n'est pas que du symbole entre Langon et Pau que veulent tous les élus, qu'ils soient de droite ou de gauche de la région, d'autres effectivement contournements qui sont effectivement en place. Donc voilà, on est vraiment à la croisée des chemins.
Sur les transports, j'évoquais la bonne nouvelle tout à l'heure, mais une des mauvaises nouvelles qui ressort de ce hors-série, c'est que par exemple, on a analysé l'argent public qui était mis dans le secteur, dans les infrastructures de transport aujourd'hui.
Oui.
Quelle est la part qui va au rail? Quelle est la part qui va au fluvial? Quelle est la part qui va à la route? Eh bien, encore aujourd'hui, alors qu'on sait très bien qu'on va devoir dans l'avenir développer le fret, développer les TER, développer les TGV, développer les tramways, on sait très bien qu'on doit aller vers ça, eh bien, aujourd'hui, le budget d'investissement de l'État, c'est 66% pour la route. C'est encore des 2x2 voies, des 4 voies, etc. Donc évidemment, il y a des enjeux de sécurité routière, mais ça ne peut pas expliquer le fait que 66% de l'argent public aujourd'hui va encore à la route. Les enjeux de sécurité routière en termes de mortalité, par exemple, c'est intéressant, c'est ce qu'on a fait, c'est intéressant de les comparer à la mortalité liée à la pollution atmosphérique liée à l'automobile, par exemple, enfin, oui. L'automobile, à l'ensemble des transports.
Alors là, c'est votre dossier santé-environnement.
Voilà. Hein. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est que selon les chiffres officiels, 32 000 personnes sont mortes l'année dernière en raison de la pollution atmosphérique liée notamment au transport. C'est à mettre en relation avec les 5 000, on va dire, à peu près, morts liés aux accidents de la route.
Oui, c'est ça.
Donc on voit bien que, autant, évidemment, il ne s'agit pas de dire il y a des bons morts, des mauvais morts, il ne s'agit pas de les trier, de les classer, mais il s'agit quand même de dire ben voilà, il y a un sujet sur lequel la politique publique a été très claire, c'est la sécurité routière, ça a eu un impact. On est descendu en gros de 10 000 à 5 000 morts, mais il y en a quand même 32 000 dont personne ne parle et qui sont liés à la pollution, et cela, il faudrait quand même s'en occuper.
Alors, sur le côté volet santé-environnement aussi, qui est un des articles hein, de ce numéro, donc les Français, on va dire, se portent globalement bien. On voit une des espérances de vie, une des plus élevées d'Europe. La France quand même consacre 11% de son PIB à la santé. Donc c'est pas rien. C'est vraiment extrêmement lourd. La couverture universelle a tout à fait joué son rôle. Mais on est toujours quand même dans une politique où on va réparer au lieu de s'interroger sur les facteurs de risque.
Voilà, c'est un entretien qu'on a fait avec André Cicolella dans le hors-série, qui explique bien qu'on a aujourd'hui un seul pilier qui est de la politique de santé, qui est le pilier soins-réparation, et que le pilier prévention, réduction des causes, réduction des facteurs qui génèrent les maladies longues, notamment le cancer ou les maladies cardiovasculaires, eh bien là-dessus, on a une politique publique qui est encore très faible. Il faut savoir que le cancer est devenu la première cause de mortalité en France, et que selon les chiffres officiels, entre 8 et 20% de ces cancers ont des origines qui sont dites environnementales. Alors attention, dans ce qu'on appelle environnement, c'est en fait tout ce qui n'est pas lié à des comportements individuels, donc le tabagisme, l'alcoolisme. Mmh. Donc on intègre les maladies professionnelles. Mais entre 8 et 20%, ça veut dire qu'on est quand même sur la maladie numéro 1 en France, qui est le cancer, on est sur un facteur clé de santé publique, et on ne peut plus aujourd'hui parler de santé publique sans parler d'environnement.
Oui, donc l'amiante, par exemple, en faisait partie. Hein, donc on connaissait les méfaits depuis le début du XXe siècle. Nous, on l'a arrêté en 1997 seulement en France. Ça fait partie de ces cancers environnementaux.
Tout à fait. C'est dans la case maladie professionnelle des cancers environnementaux, sachant que c'est toujours difficile à évaluer. C'est pour ça qu'on ne peut donner qu'une fourchette
bien
entre
sûr.
8 et 20.
Oui.
Parce qu'un fumeur qui est aussi exposé à l'amiante, quelle est la cause de son cancer? C'est compliqué.
Oui.
Mais en tout cas, d'après les études publiques qui sont faites là-dessus, on est entre 8 et 20.
Oui, on ne peut pas dire qu'il n'y a forcément qu'une seule molécule qui va permettre. En revanche, on connaît de plus en plus les molécules qui sont cancérigènes. D'ailleurs, on voit qu'il y a un tiers des maladies, là je parle des maladies professionnelles européennes, qui sont liées aux substances chimiques.
Hein. Tout à fait. Alors, les substances chimiques, on a aussi analysé leur évolution dans la consommation des Français et des Européens. On s'aperçoit qu'on en ingère, on en produit de toujours plus et on en ingère toujours plus. Selon l'ADEME, on a en moyenne, un Français avale, donc vous par exemple, vous avalez 1,5 kg de pesticides par an.
Mais je suis ravi.
Ben voilà, mais c'est une bonne nouvelle.
Mais bien sûr, c'est une excellente nouvelle. Parce que c'est encore plus embêtant pour les agriculteurs, parce que eux, évidemment, sont les premiers exposés donc à ce problème. Biodiversité, alors, de plus en plus vulnérable, à la fois des plus, des moins. Qu'est-ce que l'on peut dire?
Alors, je dirais que la bonne nouvelle en la matière, c'est qu'on a un dispositif de protection de la biodiversité dans les zones Natura 2000, les réserves naturelles, les parcs, qui depuis 10-15 ans, notamment sous l'effet de la politique européenne, c'est quand même largement structuré. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. On a maintenant des outils, si on voulait vraiment, je dirais, lutter contre la diminution de la biodiversité, on a mis en place les outils. Et forcément, ça prend du temps de définir quelles sont les espèces de menacées, quels sont les territoires à protéger, etc., de manière fine et précise. Ça, on l'a fait et c'est une bonne nouvelle. Malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? C'est que ce qui provoque l'atteinte à cette biodiversité, ce sont des facteurs structurels pour lesquels, là, il y a eu très peu de changements. La première cause, c'est la politique agricole. Et aujourd'hui, voilà, intensive. On répand toujours, à peu près toujours autant de pesticides qu'il y a quelques années. Il y a une diminution du nombre d'oiseaux. On parlait tout à l'heure des hirondelles, je crois. Alors, pareil pour les alouettes.
Ce sont des marqueurs.
L'ensemble,
tout à fait,
voilà, tout à fait. L'ensemble de ces oiseaux qui vivent autour des espaces de production agricole, eh bien, ont vu leur population diminuer de 20 à 30% ces 20 dernières années. Donc ça, c'est quelque chose de très objectif. Et grosso modo, on est aujourd'hui à 40% des mammifères français qui sont menacés dans leur survie.
Alors, on pourrait parler de l'air, de l'eau. Juste quelques mots sur les entreprises. Aujourd'hui, le côté plus vert que moi, tu meurs. Hein, on voit que ça. Bon, la réalité, c'est quoi?
Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder notamment les politiques de lobbying des entreprises. Parce que le lobbying, c'est caché, c'est les coulisses. Hein, ce n'est pas les grandes politiques de communication, de publicité. Et quand on regarde le lobbying, eh bien, on est obligé de constater qu'il est souvent en grand écart par rapport à la politique publique affichée. Prenons les constructeurs automobiles. Toutes les voitures sont vertes dans les publicités, mais concrètement, les constructeurs automobiles font tout ce qu'ils peuvent pour empêcher la Commission européenne de mettre en place une réglementation qui les obligerait à passer à 120 grammes de CO2 par kilomètre comme norme obligatoire.
D'ici 2012.
Voilà. Et eux, ils s'étaient engagés à faire du 140. Ils ont raté leur objectif. Donc, c'est normal que, puisqu'on les a laissés faire, en quelque sorte, en disant, allez-y, jouez le jeu, puisque vous dites que vous êtes verte, on vous laisse prendre cet objectif. Vous n'y arrivez pas, maintenant on met une norme. Les entreprises râlent contre ça. C'est pareil pour les constructeurs aériens, enfin les compagnies aériennes qui font tout ce qu'elles peuvent pour essayer de ne pas intégrer le futur protocole de Kyoto.
Eh bien, nous ferons d'ailleurs effectivement un sujet à la rentrée sur ce thème. Merci à vous, Pascal Canfin. L'état du développement durable, vraiment un excellent dossier d'alternative économique. À très bientôt, merci.
Merci.
Merci à Sophie Moreno, à Yann Bouillot à la technique, à Jean-Christophe Pinaza, à Jean-Baptiste Audibert et Anne Wenfeld qui a donc réalisé cette émission, ainsi que Anne Gouzon avec beaucoup de liens sur le site, donc n'hésitez pas. Vous le savez, on peut réenregistrer cette émission pendant une semaine, la réécouter pendant 4 semaines. Dans la nuit de dimanche à lundi, chez Brigitte Carnel, vous pouvez aussi l'écouter. Et la semaine prochaine, eh bien ça va être qui fait de l'or avec nos ordures ménagères, hein. On ne vous pas une bonne question, ça va être tout à fait intéressant là aussi. Et je pense un petit peu chaud. Dans quelques instants, ça va être le zapping de France Inter. De CO2 mon amour à E égale MC2 mon amour, bah bien sûr, il n'y a qu'un pas. Ce sera avec Patrick Covin et Mathias Degel. Vous écoutez France Inter, il est 15h.